France Inter, le 6-9 de l'été, Amélie Perrier.
Et on se met au vert, on sort dans le jardin avec vous Alain Baraton, bonjour.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
Alors aujourd'hui Alain, un sujet d'actualité, hein, la Lune influence-t-elle la croissance des plantes?
Je ne vous cacherai pas que j'ai hésité avant de traiter ce sujet, car ceux qui y croient, alors ils croient vraiment, véritablement, quant à ceux qui pensent que la Lune n'a aucune importance, eh bien eux aussi, ils croient tout aussi. Donc je vais essayer de tenter ce matin de démêler le vrai du faux en me servant d'exemples indiscutables. Alors avant de parler de l'influence de la Lune sur la végétation, il serait peut-être bon de rappeler que la Lune possède sur la Terre un réel pouvoir d'attraction, comme avec le cycle des marées.
Il serait bon d'avoir à ce sujet l'avis d'un scientifique.
Alors. Eh oui, c'est bien mon avis. Alors aussi ai-je appelé Michel Van Kamp, chef du service de séismologie et gravimétrie à l'Observatoire Royal de Belgique. Entre parenthèses, j'ai contacté ses équipes de chercheurs extraordinaires. Une gentillesse téléphonique hors
on
du
les
commun.
Salue.
Ah non, mais vraiment. Alors cet homme, ce savant, m'a confirmé que la Lune et le Soleil déformaient la surface de la Terre deux fois par jour, ce qui occasionnait les marées. Il m'a aussi appris que les nappes phréatiques, elles aussi réagissaient et pouvaient, en certaines circonstances, remonter vers la surface. Cela était visible, par exemple, avec l'eau des puits, dont le niveau peut, là encore, mais de manière minime, évoluer en fonction de la Lune et du Soleil.
Alors, quel est son avis sur l'influence de la Lune pour les plantes, Alain ?
Il pense objectivement que la pleine Lune diffuse davantage de lumière et que cela peut influer le végétal. Mais à part ça, Michel Van Kamp est catégorique. La Lune ne modifie en rien le comportement des plantes.
Ah bon, pourquoi beaucoup de jardiniers y croient pourtant?
Et oui, à tort, et j'en suis convaincu. Alors à Versailles, un lieu que je connais bien, les parterres sont composés de milliers de végétaux. C'est donc l'exemple que j'ai souhaité vous présenter, Amélie, ce matin. Ces végétaux, ces plantes qui garnissent les parterres de Versailles n'ont pas tous été semés, repiqués ou plantés le même jour. Et pourtant, le massif est parfaitement régulier, tout comme d'ailleurs les arbres d'alignement au port libre ou taillés en rideau. Ils ne sont pas nés le même jour et là encore, il est impossible de les distinguer.
Et qu'en pensez ceux qui vous ont appris votre métier à l'embarras?
Eh bien oui, moi quand je pense à la Lune, je pense d'abord à celui que je considère comme le plus grand jardinier de tous les temps. Je veux dire Jean-Baptiste de la Quintigny. Il est le créateur du potager du roi à Versailles, l'homme qui a conçu la manière avec laquelle on taille encore aujourd'hui les arbres fruitiers. Il est l'inventeur des primeurs. Les primeurs qui sont donc des végétaux produits hors saison. Quand on demandait à Jean-Baptiste de la Quintigny si la Lune avait une influence sur le monde végétal, il répondait avec le sourire, et je le cite, « La Lune, le prétexte des mauvais jardiniers.
» On gardera sa citation. Vous êtes un bon jardinier.
Ah, je ne sais pas.
Puisque les auditeurs vous posent des questions et que vous allez y répondre maintenant, Alain Baraton. Alors c'est Giovanni d'abord qui vous demande que planter au pied d'une haie de thuya.
Rien. Pour trois raisons. La première des raisons, c'est qu'auprès d'une haie de thuya, il y a généralement beaucoup de racines et qu'il va être bien difficile de faire un trou pour y mettre le végétal. Deux, au pied d'une haie de thuya, il manque de la lumière et la plante a besoin de lumière pour se développer. Si vous mettez des végétaux, quels qu'ils soient, ils auront du mal à trouver de quoi vivre. Trois, rien, parce que la haie de thuya, elle est en place, je viens de le dire, elle fait de l'ombre et il y a les racines, donc il n'y aura pas d'eau non plus. Donc autant ne rien mettre du tout, on perd son temps.
D'accord. Alors Marthe, elle vous dit « Malgré mes efforts, tout ce que je plante sous mon vieil arbre noyé meurt au bout de quelques jours. Je ne sais plus quoi faire. »
J'aime bien le noyé. Il est un peu comme moi, il vieillit mal.
Oui,
on supporte de moins en moins la promiscuité et les autres. Alors le noyé, que fait-il? Il produit de la juglandine. C'est une substance
comme
toxique.
Vous,
oui, non. Mais de temps en temps, si on pouvait tenir à distance les autres, on serait heureux. Eh bien, c'est ce que fait le noyé. Il produit donc cette substance au niveau des feuilles qui rend en quelque sorte stérile pour tous les autres la terre.
Ah, sympa.
Et oui, mais il est tranquille au moins, il est tout seul, dans son coin.
D'accord,
alors,
okay.
Rien ne pousse ou presque sous un noyer. C'est une manière de ne pas être débordé par une petite graine qu'on n'a pas vu venir et qui au bout de 30 ou 40 ans prend votre place. On peut par contre planter les pervenches de Madagascar. Ce sont des petites fleurs que j'aime beaucoup, qui fleurissent bleues, roses ou blanches, qui sont superbes. Mais effectivement, on ne plante rien sous un noyer.
Alors Marguerite, elle aimerait bien savoir comment éliminer le lichen sur les troncs de ces arbres fruitiers.
Mais pourquoi veut-elle l'éliminer? Déjà, le lichen est un excellent indicateur de pollution. Lorsqu'il y a du lichen, c'est que l'air est pur, qu'il fait bon respirer. Je rappelle que le lichen n'est pas du tout une maladie ou une attaque de champignons. C'est un mélange subtil d'un champignon, justement, et d'une algue. Alors, si vraiment esthétiquement vous ne supportez plus d'avoir du lichen, vous prenez une brosse et vous frottez délicatement l'écorce de l'arbre. Je rappelle que l'écorce, c'est un peu comme une peau. On n'y va pas comme une bête. On respecte le végétal.
Mais ça ne va pas l'abîmer d'enlever le lichen.
Pas du tout, mais ça ne servira à rien.
D'accord. Alors Marie, elle voudrait savoir quels sont les légumes qu'elle peut planter à côté de ses tomates.
Oui, on parle de plus en plus des plantes compagnons. Est-ce que par exemple la pomme de terre aime la tomate? Eh ben non. Bah par exemple les deux ne s'aiment pas. Mais c'est pour une raison logique, c'est que quand la tomate elle a la maladie, elle risque de la transmettre à la pomme de terre. Pareil pour la vigne et le rosier. Regardez bien dans le bordelais, on met souvent des rosiers en tête de cèpe de vigne. C'est pour permettre aux vignerons de traiter la vigne contre l'oïdium ou le mildiou. Dès que le rosier est attaqué, immédiatement on sait que la maladie est là et on peut traiter. Là, ce sont des plantes qui sont vraiment faites pour vivre ensemble. Mais il paraîtrait donc que la pomme de terre n'aime pas beaucoup les concombres et les cornichons, n'aime pas non plus le poireau, le fenouil ou les radis. J'en suis pas convaincu, très honnêtement, parce que je crois que quand on a la chance d'avoir la main verte, et j'en connais beaucoup, quand on a un tout petit potager et qu'on n'a pas de quoi faire du tri sélectif, tout ensemble devrait bien fonctionner. Mais alors, logiquement, pour éviter les déconvenues et pour ceux qui croient, sachez que officiellement, la pomme de terre aime beaucoup l'ail, les carottes, les chicorées, les haricots et les épinards. Voilà.
D'accord. Et vous nous aviez posé une colle il y a quelques semaines. Le pied de tomate, on l'appelle comment? Vous allez nous dire la réponse
ou
pas?
Oui, on l'appelle le pied de tomate. En fait, le fruit...
pas le tomatier.
Non, le fruit a pris le nom de la plante. C'est un peu comme, on ne dit pas le pivoinier, mais une pivoine. C'est-à-dire que la fleur de pivoine est produite par une pivoine. Tout comme la carotte, on ne parle pas de carottier. Tout comme on ne parle pas d'auberginier. En un mot, les légumes ont pris le nom de la plante qui les produit.
D'accord. Dernière question.
Vous avez quand même longuement réfléchi.
Ah ça m'a un peu... Oui, j'y ai pensé quand même. Dernière question de Sylvain. Comment éliminer durablement la prêle de son potager?
Eh bien, on n'y arrivera pas parce que les produits maintenant sont toxiques. Alors, on prend une binette. C'est excellent pour le moral, excellent pour le physique. On bine et on rebine encore.
Alors, on a un petit peu de temps, Alain Baraton. Vous avez un coup de cœur aujourd'hui. C'est un livre.
Un livre magnifique. Le chemin des herbes. Il est signé Thierry Thévenin, Cédric Perraudeau et Jacques Jousson. Il est publié chez Ulmer. Tout simplement, une sorte d'herbier du Midi à l'Atlantique. Eh bien, pour identifier 80 plantes sauvages, médicinales, alimentaires et tinctoriales, il y a plein de conseils, c'est très joliment illustré, c'est très agréable à lire, c'est un bouquin intelligent qui n'est pas fait que pour être consulté, mais également pour être conservé, parce que vraiment, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé, Le chemin des herbes.
Merci beaucoup Alain Baraton, on vous retrouve demain. Demain, on parlera encore de la lune.
De l'arbre de lune.
Ah, l'arbre de lune.
C'est magnifique.
Alors, à demain Alain.